S'il vous plaît. Moi, c'est comme vous voulez, hein. Plus tôt on commence, plus tôt on termine. C'est marrant, ça marche mieux, ça, comme argument. Donc, il nous reste un point à voir qui va aller plus vite, mais qui est essentiel. Essentiel pour vous dans la compréhension, c'est la structuration de l'admissibilité des modes de preuve. Alors, donc ça fait l'objet d'un grand B. Hein. Avant 2016, on va le présenter comme ça. Avant 2016, la présentation traditionnelle, c'est ce que je vous ai expliqué en intro. C'est en gros, la preuve est libre. Donc, tous les modes de preuve sont recevables, tous les modes de preuve qu'on a vus jusque-là. La preuve est libre pour les faits juridiques. La preuve doit se faire par écrit. Quand il s'agit d'un acte juridique dont le montant est déterminé par un décret en Conseil d'État, c'est 1 500 euros. Donc, la présentation avant 2016, c'était preuve par tout moyen pour les faits juridiques, preuve par écrit pour les actes juridiques supérieurs à 1 500 euros. Sous-entendu, quand c'est inférieur à 1 500 euros, on retombe sur un système de preuve libre. Maintenant, la présentation a un peu changé, c'est-à-dire que vous avez l'article 1358 du Code civil qui énonce que le principe général, c'est la liberté de la preuve. Par principe, la preuve est rapportée par tout moyen. Ce qui veut dire, si on le tourne autrement, que tous les modes de preuve sont recevables par principe. Par exception, donc hors les cas où la loi le prévoit autrement, l'article 1359, alinéa 1er du Code civil, vous dit que l'acte juridique qui porte sur une somme excédant un montant fixé par décret, c'est-à-dire 1 500 euros, quand vous êtes sur un acte juridique qui a une valeur supérieure à 1 500 euros, alors il faut un écrit, un acte sous signature privée ou un acte authentique. C'est le sens de l'article 1359. Donc désormais, ça ne change rien, hein, c'est une question de présentation. Là où on avait deux cas présentés antérieurement, les faits juridiques, les actes juridiques supérieurs à 1 500 euros de l'autre côté, maintenant on vous présente de manière un peu différente, principe, liberté de la preuve, exception, preuve par écrit pour 1 500 euros sur un acte juridique. Dans l'absolu, encore une fois, ça ne change strictement rien, c'est la même chose. Il faut juste avoir à l'esprit que... ça s'organise comme ça. Attention, il y a à minima deux catégories de faits juridiques qui se prouvent nécessairement par écrit. Ça peut vous paraître bizarre, et en fait, quand vous savez, vous allez savoir ce que c'est plus logique. C'est la naissance et la mort de l'individu. C'est des faits juridiques, vous vous souvenez, on les avait classés dans les faits naturels. La naissance, la mort, reprenez le chapitre dédié. Donc c'est des faits juridiques, pour autant... On ne peut pas démontrer la naissance d'une personne ou la disparition d'une personne par tout moyen. Il faut un écrit. Et vous aurez un acte de décès, un acte de naissance, etc. Ça sert à ça. Voilà. En fait, vous aurez un acte authentique pour démontrer un fait juridique quand c'est la mort ou la naissance d'une personne. Et c'est pour ça qu'on fait établir des actes de naissance et des actes de décès auprès des mairies qui sont concernées. Donc voilà pour la typologie. Ceci étant dit, il y a des exceptions... Pas vrai, pardon. Des exceptions à la règle de la preuve par écrit en cas d'acte juridique supérieur à 1 500 euros. Je le tourne autrement pour que tout le monde comprenne bien. On est là dans l'hypothèse où on est face à un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 euros. Exemple, je vous ai vendu mon super ordinateur pour 1 800 euros. On est d'accord qu'un contrat de vente, c'est un acte juridique. Vous vous souvenez que les contrats, on les a mis dans les actes. Donc on est bien sur un acte juridique, puisque c'est un contrat de vente. Et il est bien, il repose bien sur un montant supérieur à 1 500 euros, puisque la vente est intervenue en échange d'un paiement de 1 800 euros. Donc dans ce cas-là, on est en principe sur l'exigence d'un écrit. Puisque je suis sur un acte juridique d'une valeur supérieure à 1 600 euros, je dois prouver par écrit. Mais il y a des exceptions. La première exception, c'est que il peut exister des accords, ce qu'on appelle des contrats de preuve, en fait, des accords entre les parties. Les règles au civil qui encadrent la preuve sont ce qu'on appelle supplétives de volonté. Vous vous souvenez, on avait déjà rencontré la différence entre les règles impératives et supplétives de volonté. Je vous renvoie au début du cours, et on avait expliqué qu'une règle supplétive de volonté, c'est une règle qui fait un peu office de parachute. Les parties peuvent en décider autrement entre elles. Bah, typiquement, les règles de preuve au civil, c'est des règles supplétives de volonté, ce qui veut dire que les parties peuvent se mettre d'accord entre elles pour que la preuve soit administrée, c'est-à-dire pour que la preuve soit établie autrement que ce que prévoit la loi. C'est ce qu'on appelle un contrat de preuve. C'est l'article 1356 du Code civil que vous avez au tableau. Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Par exemple, dans un contrat de vente, on a la libre disposition du droit de propriété et du paiement de la somme. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Donc, on ne peut pas s'opposer à l'aveu ou au serment par le recours à un contrat de preuve. Ils peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption... davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que il est évidemment encadré nécessairement, mais les parties ont la possibilité d'établir un contrat en disant que les modalités de preuve finalement s'établiront autrement, qu'on n'exigera pas par exemple un acte authentique, mais qu'on se contentera d'un acte sous signature privée, là où en principe il aurait fallu l'acte authentique, etc. Il y a évidemment des conditions à tout ça, et on ne peut pas naturellement contourner complètement la loi lorsqu'elle est impérative. Les contrats de preuve, vous ne les rencontrerez pas tous les deux jours. Il faut simplement savoir que ça existe et que du coup un accord entre les parties peut venir neutraliser l'exigence d'un écrit dans certains cas. Le deuxième cas, c'est l'hypothèse de la preuve libre en matière commerciale. Alors là-dessus, il faut faire attention. L'idée à l'origine de la preuve libre, c'est que, vous le verrez quand vous ferez du droit commercial en quatrième année, l'un des enjeux du droit commercial, c'est la rapidité. On ne veut pas s'embarrasser entre commerçants, il faut que ça aille vite, il faut que ça circule, voilà, on ne veut pas trop de paperasse. Pareil, ne me l'écrivez pas comme ça, mais la logique à la source de la disposition légale, c'est ça, il faut que ça aille vite. Donc, entre commerçants, si on a tous les deux la qualité de commerçant, si on est tous les deux commerçants, la preuve est libre. On peut avoir conclu un contrat de vente de fourniture, de matériel, par exemple, pour un montant de 3000 euros. Bon, on n'a pas fait d'acte sous signature privée, c'est pas grave. La preuve, elle est libre parce qu'on est deux commerçants. Attention aux actes mixtes. L'acte mixte, c'est quand il n'y a qu'une des deux parties qui est commerçante. Moi, j'ai la nature de commerçant, j'ai la qualité de commerçant, pas vous. Donc c'est un acte mixte, c'est plus un acte entre commerçants, c'est mixte parce que c'est un commerçant et un non-commerçant. Dans ce cas-là, la preuve est libre seulement au profit du non-commerçant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans notre hypothèse où moi, je suis commerçante, pas vous, vous pouvez prouver par tout moyen. Si on a eu un contrat de 3000 euros, vous prouvez l'existence, le contenu, la teneur de ce contrat par tout moyen parce que vous êtes non-commerçant. Moi, je suis tenue à la preuve écrite. Dans l'acte mixte, en fait, si vous voulez, ça repose sur une idée que il y a une espèce de déséquilibre dans la relation, que moi j'ai une force, que je m'impose dans la relation contractuelle plus facilement que vous. Je connais mon boulot, là où vous, peut-être que vous découvrez ce type de contrat, moi j'ai l'habitude parce que je suis commerçant, pas vous. Donc, on va vous identifier, vous en tant que non-commerçant, comme étant la partie faible au contrat. Donc on va vous permettre une preuve libre, par tout moyen. Vous prouverez comme vous voudrez. Moi par contre, en tant que commerçant, dans un rapport avec un non-commerçant, je serai tenu à la preuve écrite, évidemment si on est au-dessus de 1500 euros. Si on est en dessous, on garde la règle traditionnelle. Mais si on est au-dessus, moi je serai tenu à la preuve écrite, pas vous. Dans un acte mixte, ça fonctionne comme ça. Qui est paumé jusque-là? Pour qui est-ce que ça va? Impeccable. Ensuite, l'hypothèse d'un commencement de preuve par écrit. Je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur les commencements de preuve par écrit. Vous avez déjà eu la définition, on en a déjà parlé. S'il existe un commencement de preuve par écrit, vous pouvez mettre en œuvre l'article 1361. Il peut être suppléé à l'écrit. Donc, on peut se passer de l'écrit. C'est ça que ça veut dire. Il peut être suppléé à l'écrit. Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire, ou un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres moyens de preuve. Ça veut dire que, en principe, on exige, si on est sur notre contrat à 1 800 euros, on exige un écrit, un acte sous signature privée ou un acte authentique. Si je ne l'ai pas, je peux fournir des commencements de preuve par écrit, des échanges de mails qui confirment le contrat, etc., que je devrais corroborer avec d'autres modes de preuve, des témoignages, etc. Un commencement de preuve par écrit, gardez ça toujours dans la tête, parfois il peut se substituer à l'écrit, mais comme son nom l'indique, il ne se suffit pas à lui-même. Il faut nécessairement qu'il soit conforté, qu'il soit corroboré par d'autres modes de preuve, nécessairement. Mais donc ça veut dire aussi, si on prend le problème à rebours, que dans certaines hypothèses, en l'absence d'écrit, au sens d'écrit comme preuve parfaite, donc encore une fois l'acte sous signature privée, l'acte authentique, on peut dans certains cas se reposer, commencer la démonstration probatoire avec des commencements de preuve par écrit qu'on va étayer grâce à d'autres modes de preuve, des témoignages, etc. C'est les trois premières hypothèses. Ensuite, celle-là, elle est très importante. L'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit. Je vous lis l'article 1360 et je vous l'explique. Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure. Donc, l'impossibilité ici, elle se dédouble. Elle peut être ou matérielle ou morale. Une impossibilité matérielle, c'est quoi ? Eh bien, on était dans un contrat de donation, donc j'avais établi un seul exemplaire. C'est un acte sous signature privée. On avait établi un acte sous signature privée. J'avais fait ça manuscrit, donc j'avais ma version papier. Et je fais partie de ceux qui ont subi une inondation là en France. J'ai tout perdu. Voilà. Les papiers que j'avais, par définition, ne sont plus là parce qu'ils ont été emportés par le courant. Une impossibilité matérielle, c'est ça. Ou il y a eu un incendie dans mon appart. Et pareil, j'ai pas pu sauver mes papiers. Donc, je l'avais, mais je vais démontrer que j'ai été placée dans une situation où je suis désormais dans l'impossibilité matérielle de le fournir parce qu'il a disparu. Donc, il faudra démontrer l'incendie, l'inondation, etc. C'est relativement aisé à prouver. Aujourd'hui, il est vrai toutefois que l'impossibilité matérielle est en recul pour une raison simple que vous avez peut-être déjà comprise, qui est l'ampleur du numérique maintenant. Il y a de moins en moins d'actes qui soient exclusivement établis sur papier. Donc, il n'est pas exclu que vous ayez une version numérique. Dans ce cas-là, elle n'est pas touchée. Ceci dit, l'impossibilité matérielle, elle peut aussi jouer dans une hypothèse d'écrit numérique, hein. Je ne vous raconte pas, moi, qui suis, alors qui ai une adresse Saclay, je ne suis pas enseignante à Saclay depuis aussi longtemps, mais qui suis à Saclay depuis 2008, ce que j'ai perdu dans la cyberattaque sur mes mails. Pour l'instant, on ne les a pas retrouvés. Il n'était pas exclu que j'ai dans mes mails un truc que je n'ai pas sauvegardé par ailleurs et qui était un acte sous signature privée. Eh bien, la cyberattaque et le fait qu'on n'ait plus nos boîtes mail fait que je suis éventuellement dans l'impossibilité matérielle de fournir désormais le document. Voilà. Une impossibilité matérielle, elle peut aussi intervenir, notamment avec des cyberattaques, quand c'est des supports électroniques. C'est relativement rare et si on est prudent et organisé, ce qui parfois n'est pas mon cas, on sauvegarde de toute façon ce qu'on avait sur ces mails par ailleurs, sur d'autres supports, et donc ce qu'on appelle l'ubiquité du support numérique, c'est-à-dire que vous pouvez en faire autant de copies que vous voulez, et si vous voulez le sauvegarder sur 200 supports, il n'y a pas de limite sur le support numérique, ça fait que l'impossibilité matérielle, elle recule un peu maintenant qu'on a une amplitude numérique plus forte sur les écrits. Mais ça existe. Deuxième hypothèse, l'impossibilité morale. J'ai prêté 4000 euros à ma sœur. J'ai fait preuve de largesse, je lui prête 4000 euros et elle s'engage à me rembourser tous les mois un petit peu. Autant vous dire qu'avec ma sœur, je ne me sens pas trop de faire un écrit. Je ne me vois pas tellement, c'est ça l'idée derrière l'impossibilité morale, je ne me vois pas moralement. Lui dire, par contre, ma confiance en toi étant relative, est-ce qu'on peut mettre tout ça par écrit ? Est-ce qu'on peut rédiger un contrat de prêt en bonne et due forme, le cas échéant, en allant devant un notaire ? Parce que finalement, je te sens pas tant que ça. Voilà. L'impossibilité morale, c'est ça. Dans certains contextes, alors personnel, c'est l'exemple que j'ai pris, ça peut être dans un contexte professionnel aussi. Il y a une hiérarchie qui fait que c'est compliqué de demander un écrit, etc. Le juge va considérer que vous pourrez prouver par tout moyen si vous étiez dans une situation où moralement, il était impossible au sens de compliqué, hein. Là, vous voyez bien que l'impossibilité n'est pas la même que l'impossibilité matérielle où juste il n'y a pas d'écrit parce qu'il a disparu. Là, en fait, on ne me l'écrivait surtout pas comme ça, mais on ne se sentait pas de demander un écrit. Voilà. La situation personnelle, professionnelle, etc. fait que moralement, en conscience, c'est un peu compliqué dans les rapports humains, parfois, de faire établir un écrit. Alors, mon conseil de juriste est de faire établir un écrit toutes les fois où c'est possible, parce que vous ne savez jamais comment la situation va tourner. Mais évidemment que l'impossibilité morale, elle existe à plein d'hypothèses. Et heureusement que le législateur la prend en compte. Donc ça, ce sera de l'appréciation au cas par le juge. Si moi, je vous prête 2000 euros demain à l'un d'entre vous, et que je dis au juste derrière, quand il y a un contentieux, ah ouais, mais c'était un étudiant hyper sympa, qui était souriant, qui a jamais discuté en amphi, qui a été là à tous les cours, je me suis pas sentie, le juge va me rire au nez. Là, il n'y avait pas d'impossibilité morale, j'ai juste été négligente. Nos rapports, aujourd'hui en tout cas, font qu'on n'a pas de lien suffisant pour que je puisse invoquer une impossibilité morale. Si dans 20 ans, on est devenu très copains et que je vous prête 2000 euros, là, la situation est différente. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est du cas par cas. Mais évidemment, on ne peut pas toujours, à contrario, invoquer une impossibilité morale en disant ah, « mais moi, je suis hyper timide, je ne l'ai pas senti. » Ah, bah, tant pis pour toi. Voilà. Ce n'est pas un automatisme, l'impossibilité morale. Il faudra regarder le contexte. Mais parfois, ça existe. Ensuite, l'existence d'un aveu ou d'un serment décisoire. J'aurais dû mettre aveu judiciaire, pardon. L'existence d'un aveu judiciaire ou d'un serment décisoire. L'aveu judiciaire et le serment décisoire sont des preuves non écrites parfaite. Autrement dit, un aveu judiciaire ou un serment décisoire peuvent se substituer à un écrit. Voilà. C'est le sens de l'article 1361. Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre mode de preuve. On l'a vu déjà tout à l'heure. Là, c'est l'existence de l'aveu judiciaire, du serment décisoire. Ils prennent leur lait. En tant que preuve non écrite parfaite, ils peuvent suppléer ou se substituer à un écrit qui était exigé parce qu'on était sur un acte juridique supérieur à 1500 euros. Dernière hypothèse, la question de l'exigence d'une copie. En fait, maintenant, ça a un peu changé de nature. C'est l'article 1379. La copie fiable, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, a la même valeur probatoire, la même force probante que l'original, dans des conditions qui sont identifiées par le Conseil d'État, évidemment, et on a des conditions de fiabilité qui sont posées, parfois des présomptions de fiabilité qui sont posées aussi, mais il est possible que la copie se substitue à l'original. Encore une fois, de toute façon, cette question-là, il est vrai que avec le numérique, elle change un peu de nature. Voilà. La question de la copie numérique aujourd'hui par rapport à l'original numérique, elle ne fait pas autant de sens que pouvait faire sens la question de l'original matériel papier et les copies qu'on pouvait en faire avec des photocopieuses, etc. Le numérique a totalement modifié l'approche qu'on avait de la question de la copie. Et c'est pour ça aussi qu'aujourd'hui, on a un principe d'équivalent dans l'hypothèse d'une fiabilité. Dernier point à évoquer avec vous, la question des limites au principe de la preuve. Là-dessus, il faut faire très attention. Alors, je laisse de côté ce que j'ai déjà évoqué, le fait qu'il y ait des faits juridiques pour lesquels on exige une preuve écrite parfaite. C'est la naissance et la mort, on en a parlé il y a quelques instants. Il faut terminer sur un principe essentiel qui est le principe de loyauté de la preuve. On ne peut pas faire n'importe quoi pour obtenir une preuve. Je vais aller sur un exemple très tranché avant de vous donner des illustrations jurisprudentielles. Si on reprend l'hypothèse où on était dans notre contentieux entre vous et moi, vous invoquez le fait que je vous ai donné mon ordinateur et j'affirme que c'est un vol. Si à la sortie de l'amphi, je vous tords le bras au sens physique du terme pour obtenir un aveu extrajudiciaire, oui, ok, c'est bon, c'est vrai, c'est un vol, ça ne passe pas, c'est pas recevable comme mode de preuve. En droit, ça se traduit par le fait que les preuves obtenues par violence ou par fraude sont irrecevables. Voilà. On n'est pas dans un western. Je reprends la formule d'Alain Benabant dans son ouvrage parce qu'elle est très bonne. Je vous la lis. Vous pouvez la noter, la prenez pas par cœur, mais elle est très utile. Dire que la preuve peut se faire par tout moyen ne signifie pas que tous les moyens sont bons et que la fin les justifie. Dire que la preuve peut se faire par tout moyen ne signifie pas que tous les moyens sont bons et que la fin les justifie. J'en ai marre. Si vous avez envie de rigoler, je suis ravie. Je ne suis pas complètement certaine que ce soit à propos de la loyauté de la preuve. Vous pouvez rigoler dehors. Merci. Donc, dire que la preuve peut se faire par tout moyen ne signifie pas que tous les moyens sont bons et que la fin les justifie. Je ne sais pas trop quoi rajouter à cette formule-là. Encore une fois, elle est parfaite. Vous êtes tenu par un principe de loyauté de la preuve, que vous allez sans doute revoir très largement en droit de la famille, parce que c'est un des terrains dans lesquels ces questions-là, elles se posent le plus. Les enregistrements audio, les enregistrements vidéo, les photos, les correspondances privées, ça ne peut pas se fournir dans un contentieux sans l'accord de la personne. C'est protégé par le droit au respect de la vie privée, le cas échéant par le droit à l'image éventuellement, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Je vous donne un exemple très simple. On va rester dans les hypothèses d'infidélité. Je vais finir par me porter l'œil à prendre des exemples comme ça sur le... J'ai des doutes sur la fidélité de mon conjoint. Et donc, j'ai installé des caméras planquées dans mon appartement, un peu partout. Il y en a une dans un ours en peluche, il y en a une dans une plante verte. J'ai couvert un peu la superficie de mon appartement. Et j'obtiens comme ça des preuves d'infidélité. Ces preuves-là ne sont pas recevables. Il y a une déloyauté de la preuve et ça n'est pas recevable. Si par contre, avec mon conjoint, on a installé un système de sécurité par caméra, on voit de plus en plus les pubs. Alors vous êtes jeune, vous ne regardez pas la télé et ce n'est pas tellement des pubs qui passent sur YouTube, mais si vous les voyez, voilà, toutes les pubs pour les sécurités, vous avez des caméras partout, c'est des pubs hyper anxiogènes, madame, il y a quelqu'un sur votre terrasse, est-ce que c'est vous? Non, c'est pas moi. On l'a installé ensemble. Et avec cette installation, je constate une infidélité. Ça, je peux fournir. Parce que ça, il était au courant qu'il y avait des caméras. Il a été négligent, il a oublié sur le moment, c'est son problème. Mais je ne l'ai pas obtenu en fraude de sa vie privée, en violation de sa vie privée. La caméra a été placée, on le savait tous les deux. Le fait que derrière je me serve des enregistrements, aucun problème. Mais donc vous voyez la nuance. Et il y a plein d'exemples comme ça. Alors, les enquêtes privées, on en parle beaucoup aussi. Vous prenez un détective privé pour déterminer l'infidélité. C'est recevable pour ce qu'il aura constaté sur la voie publique, dans l'espace public. S'il arrive à avoir des photos de votre conjoint ou de votre conjointe en train d'embrasser sa partenaire devant la tour Eiffel parce que ça fait joli, c'est recevable. S'il a un téléobjectif de dingue et qu'il a pris des photos dans une chambre d'hôtel parce qu'ils ont négligé de fermer le rideau, c'est pas recevable. C'est une atteinte à la vie privée parce que vous n'êtes plus sur la voie publique. Les contenus sur les réseaux sociaux, c'est la même chose. J'ai un compte Insta. Et le fameux soir où j'ai enchaîné les 15 shots de vodka, j'ai fait des stories sur Insta où on me voit avec d'autres personnes. On se suit avec mon conjoint. Soit j'ai un compte ouvert, soit j'ai un compte restreint, mais on se suit. Donc il y a accès. Si c'est ça, il peut se servir des stories. Si maintenant j'ai un compte restreint sur lequel on ne se suit pas, je ne l'ai pas dans mes followers, il ne m'a pas dans les siens, précisément parce que je me connais et que je sais que je poste des stories comme ça. Il ne peut pas fournir. Tout ce qu'il peut faire, c'est espérer qu'il y aura un de mes followers qui témoigne. Parce que lui aura eu un accès à la preuve de manière normale, sans fraude, a fortiori sans violence, et donc la preuve pourra être fournie dans ce cadre-là. Une précision quand même qui est absolument déterminante et qui me permet de faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure. Les enregistrements, c'est pareil. D'enregistrer à son insu, c'est en principe pas recevable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure à propos des caméras. Ça l'est de plus en plus quand il s'agit de prouver des violences psychologiques, a fortiori des violences physiques. Là, on change de registre. Là, on n'est plus juste dans la faute civile. L'infidélité, c'est une faute civile dans le cadre du mariage. Voilà. C'est une faute civile. Les violences sur conjoint, c'est une circonstance aggravante quand c'est commis sur conjoint, c'est une faute pénale. Donc là, on change de registre. Et là, les enregistrements sont recevables. Vous avez dû, alors là, ça pose d'autres questions sur le secret de l'instruction sur lesquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. Mais peut-être que certains ont vu passer sur les réseaux sociaux les enregistrements de Stéphane Plaza avec sa conjointe. Épargnez-vous ça si vous avez la possibilité. Ouais, il est moins sympa que dans ses émissions pour le coup. Il y a des enregistrements qui circulent, alors je vous dis, ça pose d'autres questions sur la révélation des éléments de l'instruction qui devraient rester secrets quand c'est une personne, une personnalité publique qui est concernée, parce que ces enregistrements-là n'auraient pas dû sortir en dehors du champ de la procédure. Qu'ils soient utilisés, c'est très bien, mais la diffusion des preuves d'un procès pénal sur les réseaux, moi, m'a toujours éminemment dérangée. C'est, voilà, c'est une question peut-être aussi générationnelle, mais ça me pose un vrai problème. Au premier titre, à l'égard de la victime, hein, je ne suis pas sûre que son épouse qui se fait hurler dessus sur un enregistrement de 5 minutes soit absolument ravie que les gens aient entendu ça. D'un point de vue humain, je suis pas convaincue complètement. Il est très très spécial, hein, l'enregistrement. Hein. Pour ceux qui l'ont écouté, il y a un passage où il dit bah, on peut s'installer, je sais plus où il veut s'installer, en Guadeloupe ou au soleil, en disant de toute façon, je sais plus si c'est un fils ou une fille, mais il risque pas de faire des études avec le niveau qu'on a, donc au moins on sera au soleil, on sera bien. Voilà. Donc la diffusion de ces éléments-là sur un plan humain, moi, me gêne fondamentalement. Au-delà de ça, dans le cadre d'un contentieux qui concerne des violences, là, pour le coup, la loyauté de la preuve, elle s'entend différemment. Vous pouvez produire des enregistrements qui démontrent des violences, qui démontrent le fait de ne pas avoir obtenu le consentement de la personne quand l'enregistrement constate une infraction, un délit, a fortiori un crime, là, l'enregistrement devient recevable. C'est ce qu'on dit depuis le début du cours, en fait, et c'est là que le droit est passionnant. Généralement, il n'y a pas de réponse toute faite. C'est une balance des intérêts. Pour prouver, entre guillemets, juste une infidélité, il y a plein d'hypothèses dans lesquelles la vie privée du conjoint infidèle va primer. Le droit au respect de la vie privée du conjoint infidèle va primer. Parce que c'est une faute civile. Si ce conjoint-là commet des actes de violence psychologique, a fortiori physique, c'est plus son droit à la vie privée qui prime. Je force un peu le trait ici, mais dans le procès de l'affaire Mazan, le fait qu'il y ait eu des enregistrements, alors je crois que le niveau de glauque fait qu'ils savaient qu'ils étaient enregistrés de toute façon, mais quand bien même ils ne l'auraient pas su, ils ne peuvent pas invoquer leur vie privée pour dire « Ah ouais, mais moi, du coup, la vidéo où je viole la personne inerte, elle n'est pas recevable. » Voilà. Eh oui, mais c'est ces questions-là que vous allez être amenés à vous poser. Et il y a un certain nombre d'entre vous qui se destinent au pénal. C'est ça. Voilà. C'est ces questions-là. À quel moment la balance des intérêts que j'opère bascule? Quand est-ce qu'on change d'approche? Et donc, évidemment, une faute civile et une faute pénale, un crime, a fortiori un délit, a fortiori un crime, s'entendent pas de la même manière. Et c'est pour ça que je vous dis que ça fait une boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Les enfants sont susceptibles d'être entendus dans le cadre d'une enquête pénale de violence sur conjoint. on n'est plus au civil sur le divorce pour faute sur l'infidélité. Là, on bascule dans une analyse pénale et des enfants qui auraient été victimes de violences sont susceptibles de témoigner contre leurs parents. Le cas échéant, ça va amener un juge, pour le coup, au civil, à retirer l'autorité parentale aux parents violents. Voilà. Les modalités de protection, elles se font différemment. Mais donc, n'oubliez jamais que... Évidemment, il y a des questions de gradation en fonction de la gravité du comportement. On sait hiérarchiser et on ne regarde pas tous les comportements de la même manière. Voilà. On en a terminé ici avec le cours magistral. Je vous remercie tous pour votre présence. C'était vraiment un cours hyper agréable. Ça a été vraiment... Je l'ai entendu, ça va, mon ego est sauf. Merci beaucoup, c'était vraiment un cours super. Digérez tout ça et on se revoit dans 15 jours, mais merci à tous d'avoir... Merci beaucoup. Donc j'espère que vous serez nombreux dans 15 jours. Pour ceux que je ne reverrai pas, on ne se revoit pas du coup au second semestre puisque ce n'est pas moi qui fais famille. A priori, si je ne change pas mon service, on peut se retrouver au plus tôt en L3 si vous faites du droit de la société numérique et par la suite. Bon courage, bossez bien et on se revoit dans 15 jours.